11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Hier, il a proposé à son rendez-vous Tinder d'aller à Deauville pour faire du cerf-volant. Après, il ne faut pas s'étonner s'il passe à Saint-Valentin en pyjama devant Netflix. Il a toujours une bonne idée au mauvais moment. Jérémy Lorca.
Bonjour à tous, c'est moi.
Elle ne s'achètera jamais un sac à 300 000 euros parce qu'elle trouve que ça fait vulgaire de vendre son appartement pour s'acheter un sac. En plus, elle n'est pas bling-bling, elle est plutôt cling-cling. Léa Landau.
Je suis même pas proprio, bonjour.
Il s'inquiète de la propagation du coronavirus. Samedi dernier à Paris, il a vu beaucoup de gilets jaunes se mettre à tousser devant des policiers qui leur administraient un spray pour la gorge. Laurent Barat avec nous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et celle qui est venue en studio contre vents et marées, même s'il n'y a pas de vent, elle n'est pas toujours bien coiffée. Celle qui sème l'humour et récolte la bonne humeur, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, nous jouerons avec deux auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes dans un des hôtels et casinos Partouche en jouant notre jeu Devinez qui je suis. Nous recevrons trois membres des Franglaises, Yoni Dahan, Emmanuel Lagnès et Perrine Maigret, actuellement en spectacle à Bobino jusqu'au 20 juin prochain. Puis nos invités jusqu'à midi seront les journalistes d'investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, pour leur livre Apocalypse Now, les années Fillon, qui vient de sortir aux éditions Fayard.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
C'est le moment de notre rubrique.
Europe 1, ça fait du bien de le dire.
Laurent Barra, qu'est-ce qui se passe ce matin ?
Ah, n'est-ce le fait d'avancer en âge ou alors est-ce que je suis victime d'une crise de romantisme aigu ? Mais je voudrais ce matin saluer la très belle initiative du métro lyonnais qui, le jour de la Saint-Valentin, va diffuser sur l'ensemble de ses stations les plus belles chansons d'amour. Mais c'est super ça !
Ah oui ?
Eh ben oui, imagine, t'es dans le métro, quelqu'un te pousse, tu te retournes, l'air menaçant, et là tu entends... Eh ben t'as plus envie de le taper. Voilà une idée qu'aurait pu avoir la RATP, histoire de se faire un peu pardonner ces semaines de grève. Tu sais, quand tu vas prendre ton RER et que tu t'aperçois que le train est supprimé, là t'as envie de te taper encore, et ben tu entends... Eh oui, vous voyez Anne, cette colombe de tolérance que je suis. L'amour ne m'a pas ménagé ces 40 dernières années, mais j'encourage quand même une initiative de la Saint-Valentin. Parce qu'à la différence des autres années, on a besoin de belles initiatives comme celle-ci. Entre les grèves, le coronavirus, les intempéries, et j'en passe, un peu d'amour, eh ben ça réchauffe le cœur.
Ouais, enfin, en attendant, Laurent, vous êtes tout seul pour la Saint-Valentin.
Et alors, merci Anne, encore une fois, me sortir de l'eau comme ça. Mais effectivement, oui, je suis tout seul, mais j'en prends pas ombrage du tout.
Non.
Parce que, alors, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est parce que je suis devenu une sorte de... Oh, on va pas se mentir, de saint. Mais de voir, je vais regarder les gens s'aimer, s'envoyer des fleurs, se chercher. J'irai même dans les rayons lingerie pour voir les hommes, vous savez, au dernier moment, demander à la vendeuse, je voudrais une petite culotte pour ma copine. Et la vendeuse qui va dire, elle est comment ? Eh bien, elle est comme vous. J'adore la Saint-Valentin, ouais, vraiment.
Léa, vous avez un coup de cœur pour les Oscars qui ont lieu ce week-end ?
Mais oui, Anne, moi j'ai regardé les Oscars dans la nuit de dimanche à lundi. Comme ça, maintenant, je peux le dire. Désolée, Anne, mais j'ai passé la nuit avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Adam River et Joaquin Phoenix. Je me suis réveillée épuisée. Aux Oscars comme aux Césars, en fait, vous savez, ils rendent hommage souvent aux personnes du cinéma disparues dans l'année, sauf que la cérémonie est tellement longue que bientôt les gens vont mourir pendant. D'ailleurs, aucune de ces cérémonies n'est bonne pour la santé, parce que quand tu reçois l'Oscar, bah, tu bois pour fêter ça. Quand tu ne le reçois pas, bah, tu bois pour noyer ton chagrin. Moi, je comprends mieux pourquoi je suis jamais nommée. En fait, ça veut dire qu'on cherche à prendre soin de ma santé. Bref, c'est important de regarder les Oscars et les Césars pour ne pas être largué à la machine à café. Sinon, c'est un peu comme si tout ton immeuble était au courant que ta mère a couché avec le voisin. Tout le monde en parle et toi, tu souris en faisant croire que toi aussi, tu étais au courant, alors que non.
Votre mère a couché avec le voisin ?
Non, c'est un exemple. Ah. Et puis, pour être honnête, les Oscars et les Césars, en vrai, pour moi, c'est comme les mecs. Je les critique, mais en vrai, j'attends qu'on m'appelle.
Oh. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, yes. Laurent Barra, Léa Landau, oui. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Une heure de détente avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra,
toujours là.
Léa Landau,
on est bien là.
Jérémy Lorca.
Oui.
Kim Kardashian a déclaré dans une interview qu'elle était désormais certaine que son plus jeune fils, Psalm, était la réincarnation de son père décédé en 2003, Robert Kardashian. Est-ce que vous croyez en la réincarnation et en quoi vous aimeriez vous réincarner, Laurent ?
Alors moi, je crois à la réincarnation depuis tout petit.
Ah bon ? Vous avez une expérience dans ce domaine ?
Oui, au collège, ma prof de maths n'arrêtait pas de me dire que j'étais la bêtise incarnée.
Jérémy ?
Oui, moi c'est pareil. Apparemment, quand je suis au lit avec quelqu'un, les gens m'appellent Rocco. Mais je vois pas de qui il parle. Apparemment, je suis sa réincarnation. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, Laurent, on m'a dit que au lit, toi, les filles t'appelaient Jean-Claude Duss. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Léa ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. La tempête Kiara a balayé le nord de la France entre dimanche et lundi, et bien on vous a fait un questionnaire sur le thème de la météo.
Bah on va bien galérer.
C'est excellente idée.
Hyper dur.
C'est moi qui ai eu l'idée.
Nous
vous offrons un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino ou hôtel Partouche. Vous aurez le choix parmi différents casinos ou hôtels Partouche. Deux soirées sur place pour vous amuser, car il y a toujours des animations pour passer de très bonnes soirées dans les casinos Partouche. Et nous vous offrons deux nuit, deux repas au restaurant du casino et même 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Vous pourrez choisir entre le Continental à Forges-les-Eaux, le Grand Hôtel de Divonne-les-Bains ou encore l'Hôtel du Casino.
On a le choix maintenant.
Ouais, vous découvrirez tout cela sur partouche.com. Divonne-les-Bains, c'est très très bien, j'ai déjà été.
Ah ouais,
oui. Et moi aussi.
Et l'Hôtel du
avec
Casino.
Avec qui
Mais non, enfin Léa, j'ai une
j'ai
vie.
J'ai une vie, Léa. Voilà.
Ben oui, mais on aime bien tout savoir.
Ben non.
Ah bon.
Ben non, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la discrétion. La vie privée.
Et ça nous connaît la discrétion.
Et c'est même vous qui l'avez inventé, ce terme.
C'est-à-dire, moi, je ne suis pas très bonne, j'avoue, pour garder les secrets.
Ah bon oui. Ah non, c'est pas vrai.
C'est marrant, on n'était pas du tout au courant.
C'est vrai que quand on me dit quelque chose, même quand on me dit tu le répètes pas,
tu répètes.
Surtout, non, c'est surtout non. La phrase magique.
Si on me dit tu le répètes pas, je le dis qu'à une personne.
C'est qui ?
La radio.
La personne concernée à qui ne parle pas
le micro.
Rassure-moi, quand tu le dis à cette personne, tu lui dis surtout ne le répète pas.
Parce que c'est ce qu'on dit, on dit un secret, c'est une chose qu'on ne partage qu'avec une seule personne.
Ouais, tu parles.
Bah, il va falloir revoir.
Qui elle-même va le partager avec 1000 personnes.
C'est ça.
Alors oui, on joue avec Sylva. Bonjour Sylva.
Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Salut. Sylva, vous avez 54 ans, vous êtes officier d'état civil, vous habitez à la Chélas en Isère. C'est quoi officier d'état civil ?
Officier d'état civil, c'est les personnes qui s'occupent donc des mariages, des Pâques, des baptêmes civils.
Des divorces
Non, pas des divorces, non, ça c'est les avocats. Donc voilà, pas des choses moins drôles, les décès, choses comme ça. Enfin, les
plutôt
choses
des bonnes nouvelles quand même, parce que les naissances, les mariages.
Oui,
les
naissances, reconnaissances, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, oui. Donc ça touche la vie des gens, donc c'est passionnant.
Donc il y a des gens qui arrivent, vous les voyez pleurer de joie, vous les voyez être heureux.
Voilà, exactement, exactement. Puis il y a d'autres qui sont plus. Voilà, qui sont plus discrets, qui montrent rien. Voilà, donc non, c'est bien, c'est intéressant parce que je travaille vraiment avec les gens et c'est vraiment utile et c'est bien.
Alors, vous avez écrit un poème pour l'émission, c'est vrai ?
Oui, je vous avais déjà écrit un petit poème quand j'ai joué avec vous en décembre. Mmh. Et là, je me suis permis d'écrire quelque chose très vite ce matin.
Hein, allez, allez-y, on écoute.
Allez. Me revoilà parmi vous pour passer encore une fois un moment d'humour fou et de rire aux éclats. Un instant chaleureux et peut-être merveilleux pour moi. Si enfin, cette fois-ci, je peux gagner à votre jeu, devinez qui je suis.
Ouais, c'est mignon. Vous faites des poèmes aux gens qui viennent se marier, comme ça, ou pour les naissances, vous faites des poèmes dans votre travail, non ?
Non, non, pas dans mon travail, non, non, non. Non, c'est reste privé pour l'instant.
Sylvain, vous y connaissez en météo ?
Pas du tout.
Bon, ça tombe bien, c'est ça tombe bien, on a fait un questionnaire météo.
Très dur.
Super, merci. Bah,
j'ai eu l'idée hier soir.
Sur une pleine tempête.
Sur le coup, je trouvais que c'était une bonne idée, mais là, maintenant, c'est vrai qu'en la lisant, ça va être un peu compliqué. Liste 1 ou liste 2 ?
Liste 1.
Liste 1, vous jouez avec qui ?
Je crois qu'il y a Léa Lando qui est là.
Oui,
ouais, ouais.
Oui, je joue avec Léa.
Excellent.
Bonbon. Très bien.
Allons-y. Allez. Vocabulaire et personnalité de la météo. Attention, top chrono.
Quand on appelle le 18, c'est pour appeler les
pompiers.
Oui, ça, c'est quand on laisse couler l'eau très longtemps, ça crée une
inondation.
Oui, ça, c'est quand on n'est pas bien dans sa tête, on est en plaine. On va voir un psy quand
dépression,
on est en... Oui,
dépression.
Tout à fait. Ça, c'est quand il y a plein de flocons qui s'accumulent, c'est de là. On fait des boules de...
Neige.
Oui. Ça, quand on voit pas trop, parce que c'est tout blanc, c'est du...
Brouillard.
Oui. Ça, c'est qu'une grosse... On dit qu'il y a une grosse... Il y a du vent, c'est une grosse...
Tempête.
Oui. Ça, quand il y a un éclair plus loin, ça veut dire qu'il va y avoir un...
Tonnerre.
Non, hein. Ça gronde, ouais. Ça, il y en a...
Wow,
voilà.
c'est énorme.
7 bonnes réponses, un sans faute. Bravo à toutes les deux.
Ouais, franchement, c'est dur. Hein.
J'aimerais quand même signifier le sadisme d'Anne Romanoff qui a écrit ce test et qui voulait nous faire qui voulait faire deviner cumulonimbus.
Impossible. Non, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, cumulonimbus, c'est notre assistante Pauline.
Ouais. Comment veux-tu faire deviner un truc pareil?
Je fais pas toutes les questions.
Ah oui.
Non, 7 bonnes réponses, c'est très très bien, Sylvain. C'est bien parti. C'est la deuxième fois que vous jouez. J'espère que ce sera la bonne. On va voir comment se débrouille Mickaël. Bonjour Mickaël.
Bonjour Anne.
Mickaël, vous avez 47 ans, vous êtes technicien d'études et de prix dans le bâtiment, vous habitez à Béric dans le Morbihan.
Oui, tout à fait, ouais. Près de Vannes.
Près de Vannes, vous êtes un Breton.
Oui.
Et vous faites de la course à pied 3-4 fois par semaine, vous faites des courses de 177 km.
Quoi ? Voilà.
Ah oui, entre autres, ouais.
En tout ?
Ouais, le raid du golf, c'est autour du golf du Morbihan. Wow.
Donc... Vous avez l'air hyper joyeux, Mickaël.
Non, il est pas, il est un mec dans le bâtiment. Alors, tu vois, c'est dire. Bah, alors là, au niveau du prix.
Peu,
là...
Je suis un peu stressé, c'est normal.
Ouais, et puis au niveau du prix, là, je vais vous dire, c'est pas évident. Bah là, va falloir tout déconstruire, tout refaire. Là, là, au niveau du matériau, bah là, je peux pas vous dire le prix tout de suite.
Vous êtes content de votre imitation, Mickaël?
Oh, super.
Ah, voilà.
Super.
Un cadeau.
Vous êtes en couple, Mickaël?
Ouais, je suis en couple, ouais. Avec les deux enfants également. Une fille, et puis Morgane et Malo, un garçon.
D'accord. Et vous avez connu votre femme quand vous étiez barman?
Oui, tout à fait, ouais.
C'est quoi, ça, votre... on se fait draguer quand on est barman, Mickaël?
Oui, tout à fait. Oui, sûr.
Bah ouais,
bien c'est sûr. Clair. Mmh. Et c'est votre femme qui plus vous a dragué?
Plus par les femmes de 50, 55 ans, je ne sais pas si vous...
je ne sais pas si vous voyez.
Ah d'accord.
Alors, Mickaël, liste 2, vous jouez avec qui?
Jérémy Lorca.
Oh là là.
Oh là,
okay,
là.
C'est très dur.
Questionnaire météo, il faut dépasser.
C'est un questionnaire météo.
7 bonnes réponses. Attention, top chrono.
Stéphanie de Monaco, elle a chanté comme un...
Un ouragan.
Oui. Quand on est amoureux, on dit qu'on a un coup de...
Foudre.
Oui. Vous savez, quand la pluie, elle est très très forte et qu'elle nous fait mal, on dit que c'est pas de la pluie, c'est de la...
C'est pas de la pluie, c'est... Je passe.
Ok. Renaud, il a chanté 1-1, gagnant.
Mistral.
Oui. En août, quand il fait très très chaud, on dit que c'est la...
Canicule.
Ouais. Pour prendre la température, on utilise un...
Thermomètre.
Oui. Quand il y a plus d'électricité, on dit qu'il y a...
Coupure.
Oui.
De courant.
Oui, exactement. Bah là, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est dans... Alors, quand on se prend un râteau en amour,
tempête.
On dit qu'on... Non, on dit qu'on se prend un quand on a un râteau par quelqu'un.
Dommage, c'était presque 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses.
Je suis désolé, c'était un vent.
Voilà, vous n'avez pas trouvé vent et vous n'avez pas trouvé grêle, mais c'était pas mal du tout. Vous allez rejouer avec nous d'ici un mois, Mickaël.
Désolé.
Ok, pas de problème.
Bon, bah, il est un peu déçu.
Bah ouais.
C'est normal.
Je suis désolé, Mickaël.
Vous avez presque gagné, mais
pas mal, hein.
Voilà, c'est Sylvain qui a gagné. Sylvain, un petit cri de joie. Sylvain, nous vous offrons un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino, hôtel Partouche, deux nuits, un repas restaurant du casino et même 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Plus d'infos sur partouche.com. Et tous les deux, Sylvain et Mickaël, vous gagnez pour la Saint-Valentin un bouquet Interflora, un bouquet Je t'aime au ton rose et rouge créé par les fleuristes Interflora, qui sera livré directement chez vous par un des 5200 fleuristes d'Interflora. Allez voir sur interflora.fr car il y a plein d'autres très beaux bouquets pour la Saint-Valentin.
Merci beaucoup, merci. Anne. Merci à beaucoup. Tout le monde.
Ben bah, voyez, Sylvain, c'est la deuxième fois qu'elle joue, Mickaël. Donc,
oui.
Vous voyez, il faut s'accrocher.
Hein, s'accrocher. Et je peux passer un petit message?
Allez-y.
Ça vous dérange pas? Donc, je voulais faire un gros bisou à ma femme et mes enfants. Et puis, tous les amis qui me reconnaîtront.
Eh ben très bien, on les embrasse aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain?
Oui, je peux passer du coup un petit bonjour.
Mais voici, allez-y.
Je fais un gros bisou à mon mari Bernard et à mon fils Alexandre et mes beaux-fils Florent et Maxime.
Eh ben parfait.
Voilà.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Jérémy Lorca, Laurent Barra et nos invités les Franglaises en spectacle à Bobino jusqu'au 20 juin prochain.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Laurent Barra, Léa Landau, Jérémy Lorca et nos premiers invités qui représentent 2700... 17 500 heures de répétition,
ah, wow.
170 kilos perdus sur scène, déjà plus de 500 000 spectateurs et un Molière. C'est un tel succès qu'ils prolongent jusqu'à la fin du mois de juin leur spectacle à Bobino pour découvrir à travers un blind test déjanté les véritables sens des plus grands tubes des stars anglo-saxonnes et les classiques qui ont fait la success story, enfin l'histoire du succès du spectacle Les Franglaises. Applaudissez Yoni Dahan, Emmanuel Lagnès et Perrine Maigret. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors Les Franglaises, c'est un succès jamais démenti depuis combien de temps maintenant ?
Depuis maintenant 5 ans. Voilà, la troupe est vieille de plus de 10 ans, mais le succès à Bobino est là depuis 5 ans.
Ouais, donc ça fait 10 ans de succès quand même,
ouais,
presque.
Exactement.
Et vous êtes 13 sur scène.
On est 13 sur scène, on a un collectif aujourd'hui qui est de 28 personnes.
Parce qu'il y a des remplaçants ?
Exactement.
Tellement il y a de succès ?
Exactement, tellement il y a de succès. Et puis on avait envie que la famille s'agrandisse, donc voilà, on est 28 maintenant à porter le projet.
Donc vous êtes une bande de potes, vous connaissez certains depuis la maternelle, vous êtes faites du théâtre en banlieue, vous commencez à vous produire dans un petit restaurant, vous faites des sketchs, des parodies, pas spécialement des chansons en fait, vous commencez à faire des intermèdes musicaux ?
Exactement, on avait déjà une première pièce de théâtre qui s'appelait Les 10 petits maigres, qui était une parodie des 10 petits nègres d'Agatha Christie, ça s'appelait Les 10 petits mecs de Tabata Christine. Donc on était vraiment, on s'est rencontrés par le biais du théâtre. Et puis après, effectivement, un ami à nous a ouvert un restaurant à Saint-Maur-des-Fossés. Et il aimait bien ce qu'on faisait. Donc il nous a dit, venez chanter. Il savait que certains d'entre nous jouaient de la guitare. Donc on est venu chanter. Et l'idée des Franglaises est apparue.
Alors l'idée des Franglaises, il faut quand même le dire, c'est de traduire en français des chansons anglo-saxonnes emblématiques.
Exactement. Donc c'est un délire qu'on avait en soirée. Et puis un des membres du groupe, PV Nova, s'est dit, essayons Hotel California en français, faisons-le dans ce cabaret. Et ce cabaret, effectivement, il y avait plein de sketchs, plein de choses. Et puis, paf, quand on a fait Hotel California, c'était incroyable, le retour du public.
Bon, parce que Hotel California en anglais et en français, ça donne Hotel California.
Hotel Californie.
California.
Ah, California. Oui,
c'est beaucoup de
travail.
C'est du boulot avant tout.
Le sens du détail.
Mais et alors, du coup, une première fois, vous jouez dans la rue à Bourges,
ouais,
pendant 3 jours. Et alors, au bout de 3 jours, il y a carrément 300 personnes qui vous écoutent. C'est un truc.
Ouais, vous connaissez bien l'histoire, c'est génial. Ouais, tout à fait. C'est ça. On se dit, allons à Bourges. Au printemps de Bourges, allons au festival d'Avignon, allons au Francophonie de La Rochelle, et puis mettons le chapeau, et puis ça nous paye les vacances, c'est super. Et puis au final, ça nous a plus que payé les vacances, puisqu'on a trouvé nos producteurs dans la rue. Et,
c'était qui vos producteurs ?
Blue Line Productions.
Ah, ouais.
Et donc un an et demi après, on se retrouvait à l'Olympia, sans comprendre ce qui nous arrivait.
Alors qu'est-ce que vous allez faire dans le futur ? Parce qu'une fois que vous aurez traduit toutes les chansons en français, vous allez trouver une autre idée ou vous allez...
Non, mais
alors,
italien peut-être.
Mais déjà, parce que moi j'ai vu le spectacle à Bobino et je pensais que ça allait être que ça. Il faut dire aux gens que c'est pas que ça. Enfin, c'est sans vendre le spectacle, enfin voilà, gâcher la surprise, mais en gros, c'est le point de départ. Part. Et ensuite, ça dérive, parce que c'est vrai qu'on peut dire, pendant 3 heures, écouter des traductions, ok. Et
3 heures ?
Et c'est pas ça.
C'est le ressenti, c'est 3 heures.
Mais c'est ça qui est génial. C'est ça, ouais, ouais,
mais vous réfléchissez au prochain spectacle ? Parce que là, ce spectacle est un succès interplanétaire. Molière du meilleur spectacle en 2015. Vous le jouez depuis 5 ans, mais à un moment, vous allez...
Il y a les Fralmandes, les Fragnoles. Enfin, on est sur Europe 1, donc on peut... il y a toute la carte de l'Europe,
l'Europe
à faire. Hein. Ouais, beaucoup de projets.
C'est vraiment ça.
Oui, mais il y a quand même les standards, c'est les chansons anglo-saxonnes.
Oui, bien sûr. Moi, c'est vraiment un prétexte. Nous, on ne s'est pas constitué pour faire les Franglaises. On s'est constitué pour faire... pour faire un spectacle.
Aimiez,
et les Franglaises a été effectivement la porte d'entrée. Et comme le dit Jérémy, effectivement, c'est un prétexte. Donc le spectacle déjà vrille dans autre chose que les simples traductions. Et on essaye de jouer avec ce code-là sur plein de thèmes. Et évidemment, on a plein d'envie,
pour
le futur. Et évidemment, le recruter aussi des nouvelles personnes, c'est dans l'envie de faire un futur projet à 28 et celui d'après à 50.
Wow.
Et celui d'après à
60. Carrément, il y aura une comédie musicale des Franglaises alors.
On espère, on a beaucoup d'envie. Ouais,
je vous dis que je vais y rentrer dans ce
petit à petit. Il faut chanter.
Mais oui, mais pas besoin forcément d'être un excellent. Mais non, mais je ne vais pas humilier tout le monde maintenant, c'est pas le moment.
Par contre, je propose qu'on écoute un extrait des Franglaises.
Oui. Ah ouais. Est-ce qu'on vous les fait deviner du coup ?
Ah oui, bien sûr,
avec
plaisir.
On joue.
Ouais, c'est 1 pour la monnaie, 2 pour le spectacle. 3 pour être prêt, alors va, chava.
Ouais, les fois de morning, not on the show, Elvis Presley.
Ouais, ouais,
ouais, c'est 1 pour la monnaie, 2 pour le spectacle, 3 pour être prêt, maintenant va, chava, mais ne marche pas. Sur mes chaussures en un bleu. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais reste loin de mes chaussures en un bleu.
bleu d'un chaussure. Bleu d'un chaussure. Bleu d'un chaussure. Bleu d'un chaussure. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais reste loin de mes chaussures en un bleu.
Merci les Franglaises d'être passées nous voir. Merci à Yoni Daan, Emmanuel Lagnès, Perrine Maigret. On rappelle que vous êtes 13 sur scène. Ça marche tellement bien à Bobino que c'est prolongé jusqu'au 20 juin 2020, ouais. Du mercredi au samedi à 21h. Séance supplémentaire les samedis à 16h30. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, venus nous parler de leur dernier livre, Apocalypse Now, Les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française qui vient de sortir chez Fayard. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce matin avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou.
Bonjour.
Et nos invités ce matin qui sont des journalistes d'investigation. Leur métier c'est d'enquêter et de révéler des affaires. Karachi, Clearstream, Bettencourt. Ils sont en quête de ce que les politiques craignent le plus et ce que les Français aimeraient qu'on leur dise plus souvent, la vérité. On leur doit une dizaine de livres dont Sarko m'a tué, Sarko s'est tué et French Corruption. Ce matin ils viennent nous parler de leur nouvel ouvrage Apocalypse Now, les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française. Ils ont l'habitude de poser des questions mais aujourd'hui ils vont répondre aux miennes. Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Gérard Davet et Fabrice Lhomme.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Ah, un plaisir.
Vous avez fait ce livre uniquement pour avoir le plaisir que je vous interviewe.
C'était le seul but. Franchement, c'était le seul but. C'était vraiment le but de ma vie, c'est de vous rencontrer un jour.
C'est ça.
Voilà, c'est réussi. Alors, je peux partir d'ailleurs.
Alors, dites-moi, il y a une erreur dans le titre de votre livre parce que Apocalypse Now, c'est un film américain à grand spectacle et de l'autre Fillon, c'est un peu une comédie française. Vous auriez pu choisir Titanic comme titre.
C'est vrai. Il y a plein de titres possibles. Hein. Honnêtement, on a cherché, il y en avait plein de possibles et puis on s'est dit que Apocalypse Now, c'était, en fait, c'était parfait parce que la droite, il faut la chercher aujourd'hui quand même. Hein.
Ouais, mais la gauche aussi.
C'est vrai.
ce sera un peu grâce à vous aussi d'ailleurs.
On a un peu contribué à l'effort de guerre générale, c'est vrai.
Alors le quatrième de couverture nous dit la suite de l'histoire secrète riche en témoignages et en documents inédits de la droite française de 2014 à aujourd'hui, qui débute par l'exécution du soldat Copé, se poursuit par le décisif déjeuner Jouyé-Fillon et son corollaire, la providentielle affaire Fillon, pour déboucher sur le paysage dévasté de la droite française.
Ça fait peur, hein?
Oui.
Et encore, c'est dit par Anne Romanoff.
Oui, il va le dire, Mickaël, vous allez
si
voir.
Si moi je le fais.
Allez, vas-y.
La suite de l'histoire secrète riche en témoignages et documents inédits de la droite française de 2014 à aujourd'hui, qui débute par l'exécution du soldat Copé, se poursuit par le décisif déjeuner Jouyé Fillon et son corollaire, la providentielle affaire Fillon, pour déboucher sur le paysage dévasté de la droite française.
Ça, c'est Apocalypse Now. Ça, c'est Apocalypse Now.
Il le fait bien. Il le fait bien.
Mais vous, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, vous n'avez pas peur que les Français soient passés à autre chose? Parce que dans une société où tout va très vite, qui se souvient encore de 2014? En même temps, moi j'ai adoré 2014 parce que j'avais moins de 50 ans.
D'après ce qu'on sait, on en est à la cinquième réimpression, donc ça veut dire que les Français n'en ont pas marre. Non, je pense honnêtement, c'est surtout sérieusement, je pense que les affaires qu'on raconte, elles expliquent la situation politique d'aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on en est là si on ne revisite pas cette période assez dingue quand même de déchirement, de guerre, de règlement de compte. On aurait un règlement de compte à OK Corral. On aurait aussi pu faire ça, puisqu'on aime bien les références cinématographiques.
Quand même, quand on lit votre livre, on a quand même l'impression qu'il y en a que vous aimez bien et d'autres que vous aimez moins. Par exemple, forcément, mais quand même, Copé, on sent que vous l'aimez bien, Rachida Dati, vous l'aimez bien, Fillon, ça va pas trop.
Mais alors, l'avantage, c'est que Copé et Dati, on les a vus souvent. Fillon, on l'a vu une seule fois, il était sur les bancs de la justice, hein. Il nous poursuivait en justice, on l'a gagné deux fois d'ailleurs contre lui, mais il nous a jamais adressé un seul regard. Il a refusé de nous parler tout le temps.
Oui, mais du coup, vous faites un livre de combien de pages contre le
400
Fillon?
400 pages.
Non, mais le problème principal, surtout concernant Fillon, c'est que Dupart, il veut pas nous voir. Bon, il a le droit. Hein.
On le comprend.
Mais, il a le droit. Bon, moi, je pense qu'il avait plutôt intérêt à nous voir. Il aurait d'ailleurs toujours intérêt à nous voir. Mais le souci, surtout, c'est qu'on a interrogé tous ses collègues de droite, mais il n'y en a pas un pour dire du bien de lui.
Même ses amis.
Voilà, c'est la détestation qu'il suscite. C'est vrai, on voit même une Roselyne Bachelot qui est vraiment proche de lui.
Oui, alors ça m'a étonné quand même, parce que Roselyne Bachelot, elle est soi-disant sa grande amie, et elle balance quand même des trucs terribles dans votre livre.
On a été la voir dans son bel appartement parisien, et on pensait vraiment aller la voir par acquis de conscience, en fait, pour avoir des choses sympathiques sur François Fillon. Et en fait, quand elle nous parle, elle en parle avec affection. Ça, c'est vrai. Mais elle dit des choses terribles. Par exemple, quand il a quitté Matignon, il a quitté Matignon parce qu'il y avait beaucoup d'argent à Matignon. On gagne 21 000 euros à l'époque où on est Premier ministre. Il redevient député. Ça, c'est quoi ?
Il divise par trois, à peu près.
Il divise par trois, à peu près.
Oh, galère !
C'est pour ça. Vous rapportez des propos que François Fillon retenus en Roselyne Bachelot en disant « Je ne peux pas démissionner comme Premier ministre, j'ai besoin de cet argent. »
C'est exactement ce que nous dit Roselyne Bachelot.
Ils sont toujours amis, Roselyne Bachelot et Fillon, après votre livre ?
Elle le dit.
Vous l'avez appelée ? Elle ne vous a pas insulté
Non, j'ai cru comprendre qu'au contraire, elle aimait bien ce qu'on avait fait.
D'accord, mais ils sont un peu fous, ces hommes politiques.
C'est le double effet qui se coule, c'est-à-dire que parfois, les gens aiment bien ce qu'on fait. C'est surprenant.
C'est du sadomasochisme.
Les hommes politiques apprécient.
Ou le syndrome de Stockholm.
Il y en a certains
qui n'aiment
pas beaucoup, mais certains apprécient.
Alors, il y a ce fameux déjeuner Jouyé-Fillon, donc Jean-Pierre Jouyé, conseiller de François Hollande, où Fillon va voir Jean-Pierre Jouyé pour demander d'accélérer les affaires judiciaires contre Nicolas Sarkozy.
Il nous raconte en intégralité ce qui s'est dit, c'est-à-dire, en gros, François Fillon lui a dit vous rendez compte, il faut casser les pattes de Nicolas Sarkozy.
Il dit ça à Jean-Pierre Jouyé, on rappelle, conseiller de François Hollande à l'époque.
Secrétaire général de l'Élysée, donc le poste le plus élevé de l'Élysée après le président. Et Fillon lui dit, il faut casser les pattes de Sarkozy.
Ça va, c'est pas des grandes pattes.
Jean-Pierre Jouyet rentre à l'Élysée et en fait part à François Hollande, alors président, lui disant, Fillon, quand même, qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé qu'on accélère la justice. Et Hollande, à l'époque, on le voyait régulièrement pour faire un président, on ne devrait pas dire ça. Et là, il nous dit, Jean-Pierre Jouyet m'a effectivement raconté ça. Et donc, ça, on ne pouvait pas l'écrire à l'époque parce qu'on avait une sorte d'embargo avec Hollande. On n'avait pas le droit d'écrire directement tout de suite ce qu'il nous disait. En revanche, on l'a écrit par la suite dans nos livres ultérieurs.
Donc, vous faites un article dans Le Monde pour raconter ce déjeuner. Là, Fillon commence par dire que ce n'est pas vrai.
Mm-hmm. Il devient très, très énervé.
Et Jouyet dément également. Il dit, ce déjeuner, on n'a jamais parlé de Sarkozy.
Et Fillon appelle Jouyet à l'Élysée pour lui dire il faut que tu démontes Jean-Pierre absolument.
Donc, c'était quand même sauf que Jean-Pierre Jouyet étant un gaffeur invétéré, il ne se souvient pas que, d'une part qu'il nous a parlé, et surtout que, comme on fait toujours, on a enregistré ses propos, l'interview en quelque sorte. Donc pour rétablir la vérité, on va publier le verbatim. Là, il faut être honnête, tout à fait ridicule. Il va être contraint de s'excuser et de dire finalement, oui, on a bien parlé de ça, mais voilà. Et c'est l'affaire Jouyet.
Et lui, il a haute responsabilité à l'Élysée.
Il était numéro 2 d'Élysée, voilà, sous François Hollande.
Vous avez foutu le bazar quand même, tous les deux là.
Ouais, François Hollande n'était pas très très content et Jean-Pierre Jouyet, on l'a croisé une fois dans le hall de l'Élysée. Et il est très vite parti de Nublem.
Donc il ne vous parle plus ?
Ah non.
Et puis c'est pas la première fois, il me semble, Jean-Pierre Jouyet, qui se retrouve un petit peu comme ça, à dire des choses qu'il ne devrait pas dire.
Vous avez raison, il est connu pour ça. Quand il était ministre sous Sarkozy, il avait dit des trucs qu'il ne fallait pas dire non plus. Oui, il est, c'est Rachid Dati, il dit qu'il n'est pas étanche.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Gérard Davet, Fabrice Lhomme, venu parler de leur dernier livre, Apocalypse Now, les allées Fillon, l'histoire secrète de la droite française aux éditions Fayard. Et on va voir s'ils vont rester étanches avec nous. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Mickaël Quiroga, yes, Ben Hache, yes. Christine Bérou et nos deux invités, les grands journalistes d'investigation Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Apocalypse Now, les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française. Donc pour en revenir à cette histoire de déjeuner, Jouyet-Fillon, Fillon dément, Jouyet dément, vous produisez les enregistrements, Fillon vous attaque en justice et vous gagnez.
Deux fois. À deux reprises.
Deux reprises. Vous avez gagné de l'argent ? Non, rien. Juste le.
On n'en a pas perdu en tous les cas.
Je ne me souviens même pas si on en a gagné, mais on a gagné en tout cas. C'est l'essentiel.
Bon, et alors ensuite, il y a ce livre que vous publiez sur François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. Vous dites que vous n'avez pas choisi le titre contre. Il est au courant du titre, François Hollande ?
Non. Pas du titre. Ah. Du livre, oui, mais du titre. Donc.
Et ça l'a un peu déplu, ce titre ?
Il n'était pas très content, mais il y avait deux solutions. C'était soit un président ne devrait pas dire ça, soit il se trouve que je suis président. Vous préférez lequel ?
Ah bah, il se trouve que je suis président, c'est mieux quand même.
Ouais, bah nous, on n'était pas certains que ce soit beaucoup mieux, parce qu'on s'était dit, il se trouve que je suis président, ça fait le type qui est devenu président par hasard. Donc ça renvoyait une image peut-être encore plus catastrophique.
En tout cas, suite à ce livre, il renonce à se présenter. Et donc, alors François Hollande, il vous dit bonjour maintenant ou pas, Gérard Davet, Fabrice Lhomme ?
Dernièrement, il était un peu chafouin. Il était un peu chafouin, parce que dans une autre émission concurrente, on avait critiqué un peu son quinquennat. Et ça, en fait, il s'est vexé pour quelque chose de totalement anecdotique et il n'était pas vraiment en colère pour le livre qu'il a contraint à
Mais vous,
à,
quand
à
vous
pas
l'écoutiez,
se représenter. Donc,
il se confie à vous, il vous reçoit à l'Élysée. il a quand même d'autres choses à faire, il est président à ce moment-là. Et il se confie quand même, il ouvre son cœur et vous faites un livre qui l'empêche de se représenter. Et à un moment, vous vous sentez bien, dans... enfin, je veux dire, c'est un peu, vous êtes un peu des traîtres quand même. Un peu.
Pas du
oh,
tout.
Oh si, des traîtres sympathiques.
D'abord, on est sympathiques, ça c'est vrai. Mais, ouais. Mais surtout, surtout, la vérité, c'est qu'il comptait sur nous, c'est l'histoire d'une double manipulation. C'est pour ça que c'est pas
lui comptait sur vous pour redorer son image.
Exactement.
Et pour se représenter.
Oui, mais alors ça n'a pas du tout marché, ça.
Ça n'a pas marché du tout, ça c'est clair.
Il a voulu jouer le jeu de la connivence en pensant que vous vous metteriez de son côté.
Oui, parce que je pense que c'était un réflexe automatique. La plupart des politiques fréquentent des journalistes à longueur d'année. Hollande, il a toujours adoré la presse. Il a toujours adoré les journalistes depuis le début de sa carrière. Donc il nous a vus comme des journalistes classiques qui allaient lui faire un livre.
Oui, mais maintenant, il n'y a plus aucun président qui va se confier à vous, Jardavet, Fabrice Lhomme, vous avez.
Clairement, oui. Ce qui nous a été dit, c'est que Emmanuel Macron, qui a bien connu Hollande à l'Élysée, il a clairement décidé de ne pas fonctionner avec les journalistes comme François Hollande à cause de ce livre.
C'est dommage parce que moi j'avais un titre à vous soumettre sur le bouquin que vous auriez fait sur Emmanuel
Allez-y,
Macron.
Allez-y, on est preneurs quand même.
Ceux qui m'aiment prendront le train.
Alors Gérard Davet, Fabrice Lhomme, votre livre est paru le 15 janvier. Le procès Fillon se déroulera du 24 février au 30 mars. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission de François Fillon justement? Quand il est passé sur France 2 pour s'expliquer.
Honnêtement, c'était instructif parce que ça permet de savoir que pendant l'audience, il lâchera rien. Et en même temps, c'était un petit peu, j'allais dire, ennuyeux parce qu'on aurait espéré qu'il mette ses tripes ou son cœur sur la table. Et il n'a pas réussi à fendre l'armure. Donc on a l'impression d'avoir retrouvé le Fillon qu'on avait laissé en 2017, en fait, qui n'a pas du tout bougé et qui ne reconnaît rien. Toutes les accusations sont fausses. Et donc il y avait un côté un peu déceptif concernant son discours.
Alors vous expliquez dans Sylve, Gérard et Fabrice Lhomme, que depuis 1981, le couple Fillon a perçu indûment plus de 1,3 million d'euros. En fait, c'est la version moins bling-bling des Balkany.
Oui, mais les Balkany, ils avaient... Si vous voulez, là, c'est une histoire très familiale, en fait. Hein. Balkany aussi, remarque. Mais là, c'est une histoire vraiment familiale entre François Fillon, Pénélope Fillon, sa femme, et leurs deux enfants. Là,
vous racontez que ça commence en 1980. Exactement. Pénélope Fillon signe son premier contrat d'assistance. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, ce n'était pas la norme chez les hommes politiques? C'était dans les mœurs.
C'est une des défenses de Fillon, et il n'a pas totalement tort là-dessus. Mais le problème, c'est que si vous avez comme élément de défense le fait que tout le monde faisait ça, même si ce n'était pas bien, mais tout le monde le faisait, c'est un peu faible comme défense. Mais n'empêche que ce n'est pas totalement faux.
C'est comme vous, si on vous accuse de trahir la confiance des gens, vous pouvez dire tous les journalistes le font. C'est un élément de défense.
Non, moi je dirais plus précisément, je pense que tous les journalistes essaient de manipuler leurs interlocuteurs, mais que c'est réciproque. Toutes les personnes qui parlent à des journalistes, elles ont un intérêt. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est une manipulation réciproque.
En même temps, 1,3 million entre 80 et 2014, c'est beaucoup, mais c'est sur 33 ans. Donc en fait, ça fait 39 394 euros par an, 3 283 euros par mois, mais pour un couple, ça fait 1 641,50 euros chacun. C'est pas
vous avez fait un bac scientifique, vous. Hein
elle a fait Sciences Po. Hein, c'est impressionnant.
Et donc, non, mais du coup, mais c'est pas, est-ce que c'est si énorme que ça,
c'est de l'enrichissement personnel, au sens propre du terme. C'est ce qui est beaucoup reproché à François Fillon par ses proches, c'est qu'ils ont tous triché à droite, souvent, hein, que ce soit Juppé, Chirac et d'autres, et Balkany, mais c'était souvent pour enrichir le parti, pour les élections.
Pas Balkany.
Pas Balkany, Balkany c'était personnel, ouais. Mais ils ont quand même été condamnés pour ça, que ce soit Juppé ou Chirac. Lui, c'est vraiment de l'enrichissement personnel. Et comme dit Jean-Louis Debré, l'homme qui dit le plus de mal des gens au monde, il dit c'est d'un petit voyou, ça gratte. Donc c'est ça, il y a un côté pathétique en fait dans ça, c'est que depuis 33 ans effectivement, ils ont mis en place une sorte de PME familiale, les Fillon, qui leur permettait d'arrondir les fins de mois. C'est ce qu'ils leur auraient reproché.
Mais tout le monde se hait quand même, parce que quand on vous lit, Fillon est Copé, Copé est Fillon, Sarkozy il déteste Fillon. Hollande est Sarkozy. Vous racontez quand même, alors ça, est-ce que c'est pas trahir quand même? Vous racontez que quand Sarkozy passe à la télévision, qu'il est mis en examen pour se défendre, il y a François Hollande qui vous envoie un texto qui dit quoi?
Vous dites dans le livre. Même la bave aux lèvres.
Il parle de Sarkozy en disant qu'il a la bave aux lèvres. Ouais. C'est très violent, ça.
Ah oui, mais c'est, ça pourrait être pire.
Et si vous écoutez Sarkozy parler de Hollande, c'est pas mal aussi. Hein.
Mais on
c'est
sent que Sarkozy, vous lui conservez une certaine sympathie.
Oui, mais vous savez qu'on va voir Sarkozy, en novembre, je ne sais plus de quelle année.
Juste 2013.
2013, juste avant l'histoire de Julie Gayet et du scooter. On va voir Nicolas Sarkozy dans ses bureaux. On se fait engueuler pendant une demi-heure, hein, c'est assez violent toujours. Et puis il nous dit à un moment donné, vous devriez vous intéresser à François Hollande. Il paraît qu'il sort de l'Élysée voir sa bonne dame,
sa bonne amie
en scooter très régulièrement. Et paf, trois mois après, ça sort dans Closer. Donc c'est assez fascinant. Ils se détestent tous, ils sont prêts tous à s'enterrer mutuellement. Et ça fait honnêtement le sel de vous, les humoristes politiques. Pour vous, c'est génial quand même tout ça, quoi.
Ah, merci à eux. Hein.
Non. Ah ouais. Vous vous régalez avec ça, non, franchement.
Mais il y a des politiques qui se soucient des Français et de nos problèmes ou ça on va vraiment
vous régalez pas, en fait.
Mais, non, ouais. Mais après, je pense qu'il faut... je veux dire, on peut se détester, on peut être dans les règlements de compte et par ailleurs, quand on a un peu de temps, s'occuper de la vie des Français.
Projet, ouais.
Voilà, et je pense que dans le cas d'un Fillon, d'un Sarkozy, au moment de la crise financière, par exemple, en 2008, tout le monde reconnaît, même à gauche, hein, même Hollande nous le disait d'ailleurs dans le bouquin, ils ont plutôt tenu la barre. Mais le problème, c'est qu'après, il y a cette guerre des égos, comme vous disiez tout à l'heure, et cette obsession de prendre ou de reconquérir le pouvoir. Et ça, ça les rend fous. Et pour ça, ils sont prêts à tuer leurs meilleurs amis.
Je pense qu'ils ont le double hémisphère, en fait. Ils ont l'intérêt général, et ça, on ne peut pas leur enlever. Et ils ont l'intérêt particulier.
Et vous arrivez quand même à voter, avec tout ce que vous savez ?
Ah, bonne question.
Et vous votez
à laquelle on ne répond jamais.
Gérard Davet, Fabrice Homme, vous ne votez pas ?
On ne répond pas à cette question.
Non,
jamais.
Mais est-ce que vous votez ? Vous pouvez le dire.
C'est une bonne question à laquelle on ne répond jamais.
Est-ce que vous mangez ?
Alors là, oui.
Est-ce que vous buvez ? Est-ce que vous buvez ?
Ah oui.
Bon, on est obligé.
Vous direz non, mais
ouais. Faire parler nos invités.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, venus parler de leur dernier livre, Apocalypse Now, les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française qui vient de sortir chez Fayard. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, yes, Ben H, Christine Béroux et Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Vous nous parlez de leur dernier livre, Apocalypse Now, les années Fillon, l'histoire secrète de la droite française qui vient de sortir chez Fayard. Ben H a enquêté lui aussi, Gérard Davet, Fabrice Lhomme.
Bien sûr, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, je suis ravi d'avoir deux grands journalistes d'investigation face à moi. Vous avez épinglé Sarkozy, Hollande, maintenant Fillon, mais sachez que je ne suis pas en reste, puisque moi aussi, je me suis attaqué à un puissant ce matin, peut-être trop puissant pour que quelqu'un enquête avant moi. En effet, en exclusivité mondiale, j'ai enquêté sur Anne Romanoff, une investigation qui aura duré 6 mois, où j'ai pris tous les risques pour vous livrer une vérité froide et sans concession sur les mystérieux footing d'Anne Romanoff. Entre tenue flashy, crise d'asthme et arnaque au chrono, enquête sur le terrible mensonge d'une des humoristes préférées des Français. C'est long. C'est très long comme jingle. Tout a commencé le 15 septembre dernier, sur cette même antenne.
Je cours autour du parc. Chaque tour me prend 10 minutes, donc j'en fais 3, ça fait 30 minutes.
Mon enquête commence...
Elle est bonne en maths, hein ?
Alors, dans le bois de Boulogne, lieu où ma patronne prétend courir, je trouve rapidement un premier témoin potentiel installé dans une petite camionnette blanche. C'est une femme. Elle s'appelle Madeleine, elle a 63 ans et fréquente assidûment le bois. Elle témoigne.
Ah non, je l'ai jamais vu ici à Romanoff. Je m'en serais souvenu, hein. Pour les célébrités, je propose de la totale au tarif Black Friday. Par exemple, tu vas pas me croire, mais la semaine dernière, je me suis occupé de...
Madeleine, bien que professionnelle, ne m'en dira pas beaucoup plus. L'enquête piétine. Le doute m'habite alors. Anne, nous dirait-elle toute la vérité ? Si oui, existe-t-il une preuve ? A-t-elle même déjà couru une fois ? Mon enquête circule dans le milieu des joggeurs. Tout le monde cherche désormais la mystérieuse comique sportive maintenant surnommée la licorne du bois de Boulogne. Jusqu'à cet appel anonyme sur mon répondeur dans la nuit du réveillon de Noël.
Allô Ben ? Voilà, je t'appelle pour te dire que je suis enceinte. Rappelle-moi et joyeux Noël.
Ce message, bien que troublant, n'a strictement aucun rapport avec notre enquête. C'est alors que je reçus un second appel, quelques jours plus tard, d'une personne souhaitant garder l'anonymat.
Ah bah je peux vous assurer que je l'ai vu, Madame Romanoff, de chez Monsieur Drucker, juste devant moi, dans les bois. Ah, je promenais mon sarco, c'est mon fox terrier, et je passais faire coucou à Madeleine, une copine. Et la Romanoff est habillée en tenue fluo, genre comme un cerf-volant, et puis elle s'est mise à courir comme une antilope.
Attendez, vous me confirmez que vous avez vu de vos yeux, de vos vrais yeux, Anne Romanoff courir ?
Tout à fait. Enfin, jusqu'à ce que le mec qui est suivi rejoigne sa femme. Là, elle s'est arrêtée, et puis elle est repartie en marchant dans l'autre sens.
La vérité et les faits sont là. Anne Romanoff ne va pas au bois pour courir, elle y va pour draguer. Monsieur Davet, Monsieur Lhomme, l'enquête est bouclée, merci de m'avoir écouté.
Ah, on n'aurait pas fait mieux, hein. On n'aurait pas fait mieux.
Merci Gérard Davet, Fabrice Lhomme d'être passé nous voir. Rappelle votre livre Apocalypse Now, les merci. Années Fillon, l'histoire secrète de la droite française aux éditions Fayard. Merci à vous.
Merci à vous, beaucoup. Merci pour l'invitation.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin pour écouter Le Monde Changer. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.